I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Julien Pereira.
Salut à tous, c'est Cyril Morin.
On est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato avec un grand retour. Le retour de Cyril Morin.
Ouais, je suis venu en début de mercato pour parler des.
Ah oui, mais je t'en vais déjà.
Mais oui, non, mais c'est des retrouvailles chaleureuses.
Tout à fait.
Julien, entre nous deux. Alors, sachez que c'est très chaud entre nous, mais il fait à peu près moins 40 degrés dans le studio dans lequel on tourne actuellement. Donc, si vous entendez éventuellement nos mâchoires qui claquent, c'est simplement que il fait trop froid.
Tout à fait. On va se réchauffer avec de belles infos mercato,
tout à Cyril. Fait, parce que le programme est riche aujourd'hui.
Notamment cette info sortie par l'équipe qui concerne Ryan Cherki et un intérêt du Paris Saint-Germain. Ça sera le thème de notre premier sujet.
On enchaînera ensuite par le cas de l'Olympique Lyonnais. Où va Lyon? Que fait Lyon? Qui vendre? Et pour combien? On se penchera sur les possibles départs attendus du côté de Lyon. Et on se questionnera sur la stratégie lyonnaise pour les mois et les années à venir.
De Lyon, on ira à Marseille pour évoquer l'autre gros sujet de ce début de semaine avec la potentielle arrivée de Terem Moffi et le départ de Bamba Dieng.
Et on terminera cette émission par un nom qu'on avait presque un petit peu oublié, c'est celui de Florian Thauvin, qui est désormais libre de tout contrat depuis que les Tigresses ont décidé de l'écarter de leur effectif. Où Thauvin pourrait-il rebondir? Et surtout, est-ce qu'il a encore des ouvertures en France? On se penchera sur le panorama des clubs français et on essaiera de voir où Flotov pourrait atterrir.
Puis on finira par le traditionnel Merca Quiz, ouais. Le dernier de l'hiver,
tout à fait.
Puisque c'est notre dernière émission, en tout cas en format de podcast, cet hiver, et on se retrouvera après en été. Mais on se fera évidemment un petit débrief de la dernière journée de Mercato la semaine prochaine.
Exactement. Pour rappel, Mercredi Mercato est à retrouver tous les mercredis en période de Mercato sur vos applis de podcast. Notez. Commenter, partager. Et sachez également, j'en profite, je fais ma petite publicité aussi.
Tranquille.
J'en profite, Tour d'Europe sera de retour donc tous les lundis à partir du mois de février, le 6 février pour la reprise. Et on terminera la saison avec Tour d'Europe avant de revenir évidemment cet été avec Mercredi Mercato.
Une belle alternance. On y va, Cyril? Cherki, PSG. Est-ce une bonne idée pour tous? Quand on dit pour tous, c'est pour le joueur, pour le club vendeur, à savoir Lyon. Aussi pour le Paris Saint-Germain, qui cherche toujours un remplaçant numérique, en tout cas à Pablo Sarabia. Sur le profil, on a un joueur totalement différent, Ryan Cherki. Il a 19 ans, même si on le connaît depuis un bon bout de temps maintenant, il n'a toujours que 19 ans. Il est en fin de contrat à Lyon en 2024. Il a une option pour prolonger jusqu'en 2025. Et globalement, son temps de jeu, c'est toujours pas ce qu'il attend, puisque ça correspond à environ 30 minutes par match joué.
Ouais. Ça va un peu mieux depuis quelques semaines. Il est devenu titulaire désormais avec Laurent Blanc, en tout cas sur les dernières sorties. Pour répondre à la question, Julien, est-ce que c'est une bonne idée pour tous? Pour moi, c'est une bonne idée pour personne, au final. On va prendre d'abord le cas du Paris Saint-Germain. On l'a vu, Paris, ces dernières semaines, manque de joueurs ou de côté qui percutent ou à la finition pour en tout cas mobiliser la défense centrale adverse, en grosso modo d'un pivot ou en tout cas d'un attaquant capable d'être dans la surface et d'avoir une présence dans la surface. C'était particulièrement notable contre Rennes. Cherki ne correspond pas du tout à ce profil-là. Cherki, c'est exactement comme Pablo Sarabia. C'est un joueur qui évolue sur un côté mais qui aime quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup revenir dans l'axe. Et surtout, quand on voit le pédigré des joueurs qui sont venus pour être remplaçants au Paris Saint-Germain ces dernières années et qui n'ont jamais réussi à apporter quelque chose, Draxler, Ressé, Icardi, Choupo-Moting, Sarabia, c'est des profils tous très différents, des cas tous très particuliers, mais ils répondent à une chose, c'est qu'au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de concurrence dans ce secteur-là. Et donc, Bah, amener Cherki en profil de détonateur en sortie de banc, je comprends ce que veut en faire Paris Saint-Germain, mais si ça n'a pas marqué, si ça n'a pas marché pardon, avec Draxler, si ça n'a pas marché avec Sarabia, je vois pas pourquoi ça marcherait beaucoup mieux avec Ryan Cherki. On parle du joueur maintenant, Ryan Cherki, c'est un gamin de 19 ans. On ne le répétera jamais assez, c'est des joueurs qui ont besoin de jouer. Et quand on voit l'expérience d'Hugo Ekitike ces dernières semaines, bah on se dit que on comprend la logique du Paris Saint-Germain d'aller chercher des jeunes prospects français, mais il faut pouvoir leur faire de la place. Donc pour Cherki, je ne suis pas sûr que ce soit un deal gagnant-gagnant. Et puis pour Lyon, c'est peut-être le plus gros symbole de la réussite encore du centre de formation lyonnais ces dernières années. Je comprends qu'économiquement, il y ait besoin de faire rentrer des sous, mais le signal envoyé serait assez désastreux.
Alors, je suis d'accord avec toi sur les deux derniers points. Sur Lyon, je pense qu'effectivement, en termes de symbole, surtout à une période où ça tangue beaucoup à Lyon et où il faut quand même rassurer les supporters, bah là, on ferait tout l'inverse du côté de Lyon si on se sépare de Cherki. Moi, j'ai juste une petite nuance sur le profil. Je ne suis pas convaincu qu'on puisse comparer Cherki à des joueurs comme Sarabia ou comme Draxler parce que je pense que le profil technique est différent. Et que Cherki, sur ce côté-là, est un petit peu à part, et je ne vais pas contredire ce que j'ai dit exactement il y a une semaine, à savoir que le PSG a, selon moi, besoin d'un détonateur, et je pense que la question de la présence dans la surface est un autre sujet, et est un sujet qui doit être réglé avec les joueurs qui composent l'attaque parisienne actuellement. Je pense que c'est surtout une question d'attitude et moins de profil, même si on va revenir à ce qu'on disait aussi la semaine dernière, il y a aussi besoin de cette nouvelle génération de joueurs, à savoir des joueurs qui sont à l'aise dans la surface et costauds.
Mais tu parles de profil et d'attitude. En fait, si tous les remplaçants qui sont arrivés au Paris Saint-Germain ont échoué, c'est aussi qu'il y a quelque chose inhérent à ce club qui fait que les remplaçants ne peuvent jamais être dans les bonnes conditions pour rentrer.
Oui, mais en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce que le problème vient des joueurs ou est-ce qu'il vient du PSG? Moi, j'ai plutôt tendance à...
Là, il vient du fait qu'il n'y a pas de concurrence devant, tout simplement parce qu'il y a trois ovnis qui sont indélogeables et que bah, quand on voit les difficultés que rencontre Hugo Ekitike ces derniers mois, ça s'explique aussi par le Paris Saint-Germain qui, offensivement, et d'ailleurs, quand on voit ce que fait Mukiele, par exemple, derrière, offensivement, Paris ne sait pas bien gérer ses remplaçants. C'est pas dû au coach, c'est pas dû aux joueurs. Je pense que c'est tout l'environnement et toute la construction de l'effectif parisien qui empêche les remplaçants offensifs du Paris Saint-Germain à être très performants parce que simplement, il n'y a jamais l'espoir de bousculer la hiérarchie. Il n'y a jamais l'espoir de se dire, tiens, bah, là, j'ai enchaîné trois bonnes sorties. Peut-être que je vais être titulaire au prochain match contre Lyon, contre Rennes, contre voilà, des affiches mais un peu sexy.
Ça sera le problème pour Cherki. C'est que
exactement.
Si son problème à Lyon, c'est son temps de jeu, il est quasiment certain qu'il le retrouvera au Paris Saint-Germain parce qu'évidemment, ça ne sera pas un candidat à un poste de titulaire. En revanche, je reste convaincu que sur le profil, parce que Sarabia, Draxler, alors Draxler, il est resté plusieurs saisons et ça s'est envenimé de saison en saison. Moi, je pense que Cherki a quelque chose de frais, a quelque chose de nouveau sur le plan technique et qui peut apporter sur ce plan-là ce que Sarabia n'est pas capable de faire parce que ce n'est pas tout à fait le même joueur. Et je pense que sur l'enchaînement et sur ce qui va se passer pour Paris dans les prochaines semaines, sur le nombre de matchs qu'il va y avoir, Cherki peut rendre des services, notamment en cours de match. Est-ce que lui est capable d'accepter ce statut-là alors qu'a priori, il n'est pas satisfait de sa situation à Lyon? Ça, j'ai un petit peu plus de doutes. Et puis pour Lyon, c'est ce qu'on disait tous les deux, effectivement, ça serait une énorme perte symbolique.
Il y a quand même des besoins plus urgents au Paris Saint-Germain aujourd'hui qu'un autre joueur offensif, sachant qu'il y a quand même déjà les trois de devant. Bah, t'as Ekitike, t'as Solaire qui peut aussi dépanner dans deux systèmes. Et des joueurs de côté, tu peux aussi alterner avec le 3-5-2 et considérer que Nuno Mendes et Hakimi sont en fait des joueurs offensifs qui évoluent pour le coup vraiment sur le côté. Moi, quand je vois les dernières prestations parisiennes, je me dis qu'il manque un défenseur central et me dis qu'il manque un attaquant de pointe. Donc si vraiment on caricaturait, à mes yeux, Paris a plus besoin d'un Choupo que d'un Cherki. Et dans les semaines qui viennent, je pense que Paris n'aura pas besoin de Ryan Cherki ou aurait pu faire sans Ryan Cherki, alors qu'à mes yeux, Paris pourra mal faire la suite de sa saison sans un nouvel avant-centre ou sans un nouveau défenseur central.
Oui, mais là, je pense qu'on va rentrer dans une donnée qui manque à notre débat, parce que l'équipe n'a pas sorti cette info-là encore, c'est la valeur de ce transfert. Parce qu'effectivement, si Paris a de gros moyens, en tout cas de plus gros moyens que ce qu'on annonce depuis le début du marché, tout à fait, il faut aller chercher un attaquant, il faut aller chercher un défenseur. Le problème, c'est que Paris n'a a priori pas ces moyens-là et que ces problèmes-là vont être repoussés jusqu'à l'été et que là, on on s'activera pour recruter un défenseur, notamment Skriniar, qui lui sera libre à ce moment-là. Alors que si on a une enveloppe qui est contenue, bah, je trouve que Cherki, en termes d'opportunité, en termes de profil, en termes de ce qu'il peut apporter de différent, encore une fois, et bah, c'est la meilleure solution en attendant de s'attaquer à des plus gros problèmes. Quand on aura plus de, quand le Paris Saint-Germain aura plus de moyens, à savoir l'été prochain.
On rappelle qu'en début de mercato, on avait estimé l'enveloppe du Paris Saint-Germain pour recruter ce nouveau joueur offensif à 15 millions d'euros. Elle aurait été légèrement gonflée selon l'équipe. Voilà, Cherki, on vous a mis une estimation, c'est entre 20 et 35 millions d'euros. Il est en fin de contrat en 2024, mais il y a une option pour 2025. Donc finalement, l'urgence lyonnaise, elle n'est pas aussi évidente que pour d'autres cas dont on parlera juste après. Donc, je ne suis pas sûr que...
En tout cas, Lyon peut se permettre d'attendre jusqu'à l'été.
Exactement. Mais si, par exemple, Paris a vraiment 25 millions d'euros à miser sur ce mercato-là, je pense qu'il y a 25 millions d'euros à mieux miser et à aller chercher un autre profil que Ryan Cherki.
Ben, j'ai du mal à imaginer que tu puisses trouver, par exemple, un attaquant, l'attaquant que tu recherches, l'attaquant de surface, qui est à la fois un profil rare et un profil de plus en plus recherché, parce que c'est aussi une vraie tendance qu'on observe dans les grands clubs. Je ne suis pas certain qu'on puisse le trouver en hiver et à ce prix-là, tout simplement. Et puis pour le défenseur, la question ne se pose même pas, puisqu'on est sur des sommes complètement folles.
Tout à fait. On va prolonger cette discussion, Julien, après avoir évoqué le cas Cherki. On parlait du PSG beaucoup, on va parler de Lyon maintenant, parce que c'est un club qui anime et qui va animer la dernière ligne droite de ce mercato d'hiver, surtout dans le sens des départs, parce qu'il y a des candidats dans tous les sens. On vous a catégorisé, on a fait deux catégories, les indésirables, pardon, décidément j'ai du mal aujourd'hui, les indésirables et les joueurs formés au club. On va commencer avec les joueurs dont l'OL veut se débarrasser. On a mis Tété dedans parce que ça nous arrangeait, mais Tété n'est pas exactement dans cette catégorie-là. Mais par contre, Karl Toko Ekambi, Romain Fèvre, Thiago Mendes, Jeffrey Nadelaïde et Moussa Dembélé sont des candidats au départ ultra affirmés pour ce mercato d'hiver. Ça a failli se faire pour Jeffrey Nadelaïde, qui a finalement été refusé par le FC Séville parce qu'il manquait de rythme. À quoi il faut s'attendre dans ces dossiers-là, Julien?
Parce qu'il faut s'attendre, à des pertes déjà, parce que ce sont des joueurs qui ont coûté très cher à l'OL, même s'il y a eu l'amortissement, même s'il faut étaler ces montants-là sur les durées des contrats, et qu'aujourd'hui, en termes de valeur sportive et donc de valeur sur le marché, c'est beaucoup plus compliqué. On pense à Toko Ekambi, qui est devenu un indésirable, en tout cas auprès des supporters. On pense à Romain Fèvre, dont le temps de jeu est famélique.
Non, mais surtout, et qui a perdu le fil en plus, Romain Fèvre.
Ce qui était arrivé comme un vrai espoir capable d'apporter quelque chose de nouveau et qui va repartir probablement comme un joueur lambda. Thiago Mendes, qui a été recruté, je crois que c'était 22 millions d'euros à l'époque, ouais. Qui aujourd'hui en vaut moins que la moitié. Et puis Jeffrey Nadelaïde, qui pour le coup est un cas encore plus particulier parce que, puisqu'il a été refusé par Séville, ça risque aussi d'envoyer un signal aux autres clubs et de finalement refroidir les potentiels acheteurs ou clubs intéressés par un prêt, par exemple.
On s'est amusé à calculer le montant dépensé par l'OL pour acquérir ces joueurs. Donc Toko Ekambi, Fèvre, Mendes, Ren Adelaide et Moussa Dembélé, on arrive à plus de 95 millions d'euros. Dans un monde idéal, mais vraiment idéal, où Lyon vend très très bien tous ces joueurs-là, Lyon récupérerait 25 à 30 millions d'euros. C'est vraiment un monde idéal, sachant que la valeur marchande la plus forte, ça joue entre Romain Fèvre et Jeffrey Nadelaïde quand même. Et ça dépassera pas 15 millions d'euros, c'est sûr.
Sachant aussi qu'on sera forcément vers des clubs de seconde zone, si je puis dire, des 5 grands championnats européens, à part pour certains joueurs, je pense à Moussa Dembélé qui peut intéresser l'Angleterre, mais qui est en fin de contrat, donc ouais. Qui a une valeur qui n'est pas intéressante pour Lyon. Donc forcément, ce seront probablement des clubs qui vont tenter d'obtenir des prêts avec option d'achat, et qui ne feront pas de montant de transfert sec.
Cette décote, en fait, elle est terrible pour Lyon parce que elle met un petit peu un pistolet sur la tempe des dirigeants lyonnais. Pourquoi ? Parce que vous avez des joueurs sur lesquels vous avez investi beaucoup d'argent, qui sportivement ne vous rapportent pas ça et qui n'ont plus de valeur sur le marché, ou en tout cas plus la valeur à laquelle ils ont été achetés. Lyon a besoin de sous. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont regarder les valeurs marchandes les plus hautes de l'effectif. Les valeurs marchandes les plus hautes de l'effectif, c'est qui ? C'est Malo Gusto, c'est Ryan Cherki, c'est des joueurs qui ont été forts, ou même un El Arouche au fond, même si on ne l'a pas encore vu beaucoup avec l'équipe professionnelle. On sait qu'il a une valeur et que certains clubs le surveillent depuis longtemps, qui seraient prêts à investir dessus. Donc, Lyon parce que les recrues qu'ils ont faites n'ont pas été bonnes, va être obligé de vendre ses joyaux, et donc de vendre Malo Gusto ou Ryan Cherki. Peut-être que les deux ne partiront pas dès cet hiver, mais on a quand même... On pense que Malo Gusto est un candidat au départ très sérieux. Il s'est déjà mis d'accord avec Chelsea, donc a priori, c'est que...
Surtout qu'en général, quand Chelsea veut un joueur, a priori, depuis le début du mercato, ils arrivent plutôt à aller au bout.
Donc c'est terrible parce que finalement, Lyon va se retrouver avec des indésirables encore sur les bras et va vendre peut-être les deux seuls joueurs, trois avec Alexandre Lacazette, à vraiment apporter quelque chose cette saison sportivement. Malo Gusto et Ryan Cherki, donc ça dit tout finalement de la situation de Lyon ces derniers mois. Et ce mercato d'hiver, c'est l'aboutissement de mercato raté. Et Lyon se retrouve à vendre les bijoux de famille, quoi.
Mais on risque d'avoir des commentaires sur Lyon a toujours vendu ses jeunes joueurs. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'était un cercle vertueux.
Ouais.
Parce que ces joueurs-là servaient à financer d'autres crues et qu'en plus, il y avait une vraie anticipation avant cela. Là, ce cercle vertueux, il est devenu cercle vicieux parce que, vu que les recrues hors centre de formation n'apportent pas satisfaction sur le plan sportif, on est obligé de sacrifier des jeunes joueurs qui, pour le coup, finalement, n'ont même pas été rentabilisés sportivement, soit parce qu'ils ont peu joué, soit parce qu'on ne les a pas assez vus. On peut revenir sur Ryan Cherki, on peut aussi évoquer Larouche. Donc, c'est... On a l'impression que Lyon a complètement perdu le fil de sa stratégie et que le club cherche encore à appliquer quelque chose qui ne fonctionne plus, tout simplement.
Au fond, Lyon, ils auraient dû être les grands gagnants de l'évolution du marché, à savoir, on surpaye des joueurs dont l'expérience professionnelle est quand même pas suffisante pour justifier de telles sommes. Quand on voit les transferts récents en Première Ligue, on se rend compte que ce qui compte, c'est l'expérience au plus haut niveau. Voilà, c'est l'âge. Lyon pourrait récupérer, on va faire un paquet, 70 millions d'euros sur Gusto et Cherki. C'est très bien. Mais ces joueurs-là n'ont rien apporté à l'équipe première, ou en tout cas pas suffisamment à l'époque de Lacazette, de Tolisso. Au moins, il y avait quelque chose et ça portait l'équipe. Là, c'est une équipe qui est complètement perdue. Et moi, le sentiment que ça me donne, c'est le sentiment d'une panique générale à tous les étages à Lyon. Il y a un nouveau propriétaire. On ne sait pas exactement où va le projet. On ne sait pas exactement ce qu'on veut faire.
On ne sait pas exactement quels sont les moyens aussi.
Exactement. On passe du temps, et l'exemple de João Gomes, c'est exactement ça. On essaye de hijacker une opération qui est déjà ficelée avec Wolverhampton pour se rendre compte que finalement, le joueur ne veut pas venir. Et donc, on perd du temps sur des dossiers perdus d'avance. Et on a le sentiment d'une planification qui n'est pas du tout construite. Voilà, quand on lit les infos sur Malo Gusto, on nous dit que Bruno Cheroux n'avait pas prévu de potentiel remplaçant à Malo Gusto, que ça va être le jeune Koumbédi qui a été satisfaisant sur ses premières sorties, mais il n'a que 17 ans.
Pas assez solide.
Pour en faire un titulaire à ce poste-là, ça dit vraiment beaucoup de choses sur les ambitions de Lyonnais pour la fin de saison. Et ça dit aussi qu'on parle du mercato d'hiver, mais le chantier que ça va être à l'été 2023, parce qu'il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, notamment Oussama Aouar, notamment Moussa Dembélé, qui sont des joueurs qu'il faudra remplacer au moins numériquement, et que l'été 2023, ça peut être le plus grand tournant de l'histoire de l'OL sur les 5 ou 10 années précédentes.
Et ça, je trouve que c'est un vrai signal aussi, les fins de contrat, en tout cas la gestion de l'effectif et des contrats de l'effectif. On a l'impression que Lyon a complètement perdu le jeu des négociations, qu'aujourd'hui, tous les joueurs sont capables de mettre la pression et d'obtenir ce qu'ils veulent, ou de jouer la montre et de partir une fois qu'il leur reste 6 mois ou un an de contrat. Et ça, c'était tout l'inverse de ce qui se passait à Lyon il y a 10 ans.
Qu'un Oussama Aouar puisse partir libre, alors que c'est un joueur formé au club, Lyon n'est pas vraiment gagnant finalement dans l'affaire. Quoi. Sportivement, il a été bon une saison et le reste du temps, ça a été très irrégulier. Donc on suivra évidemment l'évolution de la situation lyonnaise, mais ça ne nous dit rien qui vaille. C'est une belle expression.
C'est une belle expression. On parlait de ringardise la semaine dernière. On est en plein dedans là.
On est pas mal dedans.
Troisième sujet, Mofi, Cyril, qui lui est en pleine forme. En tout cas, il a fait une très belle première partie de saison avec Lorient, beaucoup mieux que la saison dernière, et qui, évidemment, suscite beaucoup de convoitises en Angleterre, aussi de la part de l'Olympique de Marseille, de Nice également.
Ouais.
C'est Nice qui tenait la corde. Et ces dernières heures, l'OM a repris la main, avec notamment la carte Bamba Dieng, en incluant Bamba Dieng dans le deal. On parle d'un montant de 18 millions d'euros bonus inclus, Et donc, dans l'autre sens, Bamba Dieng ferait le chemin vers Lorient, qui lui est estimé à 5 millions d'euros. Tout ça, ce sont des infos de l'équipe. Ça montre quand même que Longoria a encore et toujours de la suite dans les idées.
Ouais.
Parce que Mofi, c'est un profil que l'OM n'a pas.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que l'OM a été capable de s'ajuster pendant le mercato. C'est-à-dire qu'ils sont venus en disant on va chercher plutôt des milieux offensifs pour compenser la longue blessure d'Amin Harit, le départ de Gerson, etc. Et finalement, bah, ils se disent qu'une pointe, ce ne serait pas si déconnant. Et c'est vrai que ce ne serait pas du tout déconnant quand on voit le pauvre Alexis Sanchez qui fait des appels dans le vide et qui, je pense, en a un petit peu marre aussi de courir beaucoup sans avoir beaucoup la gonfle. Mofi, c'est un profil très intéressant pour plusieurs raisons. Un attaquant de pointe, ce qui permettrait de faire reculer Alexis Sanchez. Et Alexis Sanchez, on l'a vu, a suffisamment de talent et d'énergie pour occuper un des deux postes derrière l'attaquant. Mofi, c'est un joueur de 22 ans qui a déjà un marché anglais et qui est en pleine bourre sportive. Donc, vous récupérez un joueur qui peut vous marquer des buts, qui apporte quelque chose athlétiquement aussi à l'Olympique de Marseille, qui permet à votre meilleure individualité, parce que je reste convaincu que Sanchez est la meilleure individualité de l'OM, bah, d'être dans de meilleures dispositions finalement et de l'utiliser au maximum. Et d'avoir aussi, il n'a que 22 ans, Mofi, il aura toujours un marché anglais dans un ou deux ans. On sait qu'il a des ouvertures sur ce marché assez importantes, son agent et notamment l'agent d'autres joueurs en Première Ligue.
Parler de West Ham notamment.
Exactement, donc dans deux ou trois ans, si Mofi prend feu, à Marseille, évidemment qu'il y aura un marché pour l'accueillir. Donc, sur ce coup-là, Longoria a eu tout bon. Reste à convaincre le joueur, puisque c'est ça qui pose problème jusqu'à présent. Longoria a un pressing assez actif auprès de lui. Et on se souvient de l'épisode Alexis Sanchez. On sait qu'en termes de harcèlement de joueurs, il sait faire. Donc, ouais, pour l'instant, c'est plutôt séduisant. Et si Marseille réussit à dépasser Nice dans le Camofi, ce sera un vrai coup parce que là, l'OM aurait réalisé un mercato d'hiver très séduisant avec Malinovski, avec Mofi, mais aussi avec Ilic qui arriverait plus en prévision de l'été prochain pour le coup.
Ce que je trouve intéressant aussi par rapport à Nice, c'est qu'on a la sensation que Longoria s'est montré vraiment actif une fois qu'il a connu le prix de Mofi. Parce que ça avait fuité dès lundi l'accord avec Nice, qu'on parlait déjà de 18 millions d'euros, et qu'il s'est dit 18 millions d'euros pour un joueur comme Mofi, ça peut être très intéressant pour nous, pour toutes les raisons sportives que tu as expliquées, avec notamment le fait de reculer Alexis Sanchez. Moi, ce que j'aime, c'est à la fois ça, c'est aussi l'anticipation. Tu en as parlé pour Ilic. On a quand même la sensation que ça va servir à compenser un probable départ de Guendouzi vers l'Angleterre l'été prochain. Et puis il y a tous ces mécanismes alors, qui éthiquement peuvent porter à débat, mais le moyen de pression Bamba Dieng, qui est quand même un joueur qui intéresse beaucoup de clubs à la fois en France aussi en Angleterre, qui peut permettre à bah, tout simplement de dépasser Nice et de prendre le devant sur ce dossier là donc tout ça montre quand même qu'il y a un dirigeant qui sait ce qu'il fait, qui a la suite dans les idées et qui sait aussi à s'adapter et connaître les besoins de son équipe. Maintenant, pour moi, il y a encore une limite, et je sais que c'est mon grand dada et beaucoup me le reprochent, mais il y a l'aspect financier. On attend de voir les bilans de l'ADNCG, notamment sur la réduction du déficit de l'OM. Et puis, il y a quand même des déchets. Alors évidemment, on n'en parle pas parce que tout se passe bien pour l'OM sur le plan sportif. On peut quand même évoquer les cas Luis Suarez, on peut évoquer cas Lirola, qui quand même démontrent qu'il y a quand même un petit peu de déchets dans la stratégie de Longoria.
Je pense que de toute façon, l'été prochain va tout définir, si... tout ou même l'hiver d'ailleurs, parce qu'on parle de Guendouzi pour l'été prochain. Si Aston Villa met 35 millions d'euros le dernier jour du mercato, est-ce que l'OM serait en capacité de refuser? C'est pas sûr, mais en tout cas, si l'OM se qualifie en Ligue des Champions et l'OM vend Guendouzi à plus de 30 millions d'euros, bon, a priori, les soucis financiers et en tout cas les erreurs, Luis Suarez ou voilà, tous ces joueurs qui sont venus à l'OM sans qu'on sache trop pourquoi, bon, on les aura vite oubliés. Donc, au fond, moi,
puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a quand même aussi des joueurs qui sont une nouvelle fois des joueurs prêtés. On peut penser à Nuno Tavares.
Absolument.
Et que l'OM est déjà très limite sur le plan des latéraux, que ça risque de créer de nouveaux problèmes l'été prochain.
Oui, mais ça, de toute façon, il est habitué à le faire, Longoria. Chaque été,
il y a deux... le problème.
Oui, mais bon, c'est aussi la méthode Longoria. Quand ils vont chercher, ils perdent Saliba et ils vont chercher Tavares ou Mbemba. Bon, il sait faire ça. Il sait trouver les bons profils. Il sait aller chercher dans les grands clubs les joueurs qui sont un petit peu bloqués pour les faire jouer à l'OM où le projet sportif est séduisant parce qu'il y a la Ligue des Champions. Ça aussi, ça conditionnera beaucoup du bilan de Longoria à la fin de saison. Il n'empêche, petit aparté, je pense que dans les mois qui viennent, on devrait avoir de plus en plus des duels à distance entre Marseille et Nice parce que les projets vont être un petit peu similaires, parce que les moyens financiers vont être un petit peu similaires, voire presque supérieurs pour l'OGC Nice, qui a moins la contrainte financière que l'OM. Et que, avec l'arrivée de Gisolfi depuis Lens, ils vont avoir des cibles un petit peu en commun. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un Nice-OM, comme on a pu avoir pendant un temps, un OM-OL.
Et parce qu'il commence à y avoir un passif aussi. Il y a eu le cas Dieng, l'échec du transfert de Dieng à Nice. Il va potentiellement y avoir un cas Terem Moffi, donc ça va aussi compter.
Tout à fait, tout à fait. On va terminer cette émission, Julien, avec un dernier nom qu'on ne pensait pas évoquer cet hiver, pour être très sincère avec vous. Un champion du monde, 2018, Florian Thauvin, qui est désormais libre de tout contrat. Il a 30 ans jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Dans la fleur de l'âge, finalement. Super joueur qu'on connaît tous bien pour avoir brillé du côté de l'Olympique de Marseille. Libre de tout contrat parce que les Tigresses ont décidé de résilier son contrat avec l'arrivée d'un nouveau joueur étranger dans leur rang et qu'il fallait donc faire de la place. Florian Thauvin a décidé de contester ce licenciement-là. Il s'est présenté au centre d'entraînement des Tigresses avec son avocat pour faire constater le fait qu'il ne pouvait pas pénétrer dans les installations du club mexicain. Et donc, Florian Thauvin est libre et va chercher un nouveau projet pour les semaines et les mois qui viennent. Où Florian Thauvin peut-il rebondir, Julien ?
Là, à l'instant T, j'aurais plutôt tendance à te dire nulle part. En tout cas, pas en Ligue 1. En fait, tout dépend de ses ambitions à lui, parce que ses ambitions, avant qu'il quitte l'OM, étaient déjà trop élevées par rapport au marché qu'il avait. On avait plutôt un marché de clubs de seconde zone type Valence, qui pourrait d'ailleurs être une piste, encore une fois, sur cet hiver. En Ligue 1, le problème, c'est qu'il a toujours un statut qui est très élevé, notamment sur le plan salarial, et qu'il n'entre quasiment dans aucune grille.
Aucune, absolument aucune. Alors, son salaire au Mexique était de 5 millions d'euros net par saison. Si on fait l'équivalence en France, ça représenterait le plus gros salaire à Lens, à Rennes, à Marseille, le deuxième plus gros salaire à Monaco et le top 3 des salaires à Lyon. Ça vous dit à quel point il est complètement décorrélé de l'écosystème financier en Ligue 1 actuellement. Et moi, j'ai un autre problème. C'est que, avant même de parler d'argent, parlons de football. Florian Thauvin, en 2023, en Ligue 1, dans quel projet il s'inscrit ? J'en vois aucun. Et à mes yeux, il est presque, et c'est terrible de dire ça pour un joueur qu'il a quitté qu'en 2021, mais à mes yeux, Thauvin est presque démodé pour le championnat actuellement, ou en tout cas pour les équipes de haut tableau de Ligue 1 cette saison.
Oui, et ça montre aussi que la Ligue 1 se porte bien quelque
exactement,
part.
Exactement, mais c'est un super symbole.
Parce que, tout à fait, c'est exactement ça. C'est un symbole parce qu'on a dans le top 6, top 7 de Ligue 1, que des équipes quasiment qui ont un projet clair, qui ont une vraie idée de ce dont elles ont besoin en termes de renfort. Pour moi, la seule petite exception, la seule petite possibilité, c'est peut-être Monaco. Et encore, il y a des limites. Mais c'est peut-être le projet le plus flou, où on ne sait pas trop où ça va, où on a encore des recrues qui ne correspondent pas à ce qu'on attend de Monaco. Est-ce que ça veut dire que Thauvin peut rebondir sur le rocher ? J'ai encore un doute parce que, mine de rien, il a 30 ans et que en termes de valeur sportive, on ne sait plus trop ce qu'il vaut, Florian Thauvin.
Moi, je pense qu'il vaut encore 15 buts en Ligue 1, hein, franchement, sans souci. Mais c'est simplement que si vous le transposez à Lens, style de jeu correspond pas. Si vous le transposez à Rennes, peut-être un petit peu plus, mais financièrement, il va falloir faire de gros efforts. À Marseille, on n'en parle même pas. En fait, si la piste la plus logique, c'est Monaco ou Lyon, c'est simplement parce qu'on ne voit pas trop où vont ces projets-là. Et que, ils sont à l'affût de bons joueurs comme l'est Florian Thauvin, mais que ça ne répondrait pas non plus à une logique délirante, sachant que ces deux clubs qui ont décidé de faire du trading, même s'ils ne le font pas toujours très bien, sur un joueur de 30 ans, c'est quasi inexistant.
Et que ces deux clubs, en tout cas, enfin, surtout pour Lyon, qui, parce qu'il a une situation compliquée, seraient peut-être plus aptes à prendre ce risque, parce qu'aujourd'hui, prendre Thauvin après 2 ans au Mexique,
Deux ans qui n'ont pas été bons en plus.
Qui n'ont pas été bons. Voilà. Bah, ça reste une vraie prise de risque sur le plan sportif. Le problème, c'est que pour lui, en tout cas, c'est que les autres clubs, bah, ils ont tellement un cap clair bah, qu'ils ont la possibilité de réduire les risques et de d'écrémer les joueurs qui sont susceptibles de les renforcer. Donc pour Thauvin, ça s'annonce très compliqué. Et si on veut élargir même à l'Europe, on sait qu'il n'a pas de marché anglais parce qu'il n'a pas laissé un très bon souvenir là-bas.
Oui,
et que de toute façon, maintenant qu'il est parti au Mexique, c'est encore plus compliqué. Il y avait des clubs intéressés avant son départ en Italie, on parlait notamment du Milan, en Espagne, à Valence.
Mais là aussi, c'est des clubs qui ont changé. Enfin, alors Valence peut-être pas, mais là, c'est Milan, on n'est plus du tout dans la même logique.
Et encore une fois, même pour ces clubs-là, en tout cas pour ces championnats-là, son salaire posera problème aussi, je vais y arriver. Donc, pas très optimiste.
De toute façon, il sera obligé... Enfin, à part s'il repart dans un championnat exotique, s'il veut revenir dans le top 5 en Europe, il sera obligé de faire des efforts financiers parce que c'est intenable d'avoir ce salaire-là avec aussi peu de certitude sur son niveau réel et sur bah, sa situation de carrière à 30 ans.
Le problème, c'est que faire un effort, c'est quasiment divisé par 2, voire 3.
Exactement. Sachant que c'est un joueur libre qui, en plus, pourrait demander une prime à la signature assez importante, comme ça se fait beaucoup récemment. Voilà, c'est un dossier qu'il faudra surveiller, ça c'est sûr. Mais pour la Ligue 1, pour cet hiver,
en fait,
difficile.
On aimerait beaucoup le retrouver en Ligue 1. Exactement. Parce qu'il nous a vraiment laissé un très bon souvenir. Malheureusement, on l'imagine très peu.
Et bah, je crois qu'on est arrivé presque à la fin, Julien, de cette émission. Presque parce que
c'est the moment,
le moment tant redouté du Mercacuiz. Et on accueille notre graphiste Quentin Guichard.
Quentin, bienvenue.
Salut messieurs.
Dernier Mercacuiz de l'hiver.
Ouais, je suis très triste. On est tous tristes dans ce studio.
Il y a un peu de tension.
Stressé, ouais. Ouais, moi je suis stressé. Mais alors attends, avant de rentrer dans le vif du sujet, Quentin.
Ouais.
Tu vas lancer un débat. Non, mais parce que on a voulu enquêter sur les coulisses de la création du Mercacuiz.
Ouais.
Moi, je me disais que tu faisais un gros boulot de scout, que tu cherchais les joueurs longtemps.
Ouais. Gros boulot, ça colle pas.
La vérité, c'est quoi? C'est qu'il met ses fesses sur son canapé le dimanche, il regarde un match et il dit ah tiens, j'ai vu Adama Traoré cette semaine, ce sera lui.
Ouais.
C'est juste ça en fait.
Non, bah ça fait son actu.
Ok. Donc t'as regardé quoi comme match ce week-end?
Ce week-end, j'en ai regardé pas mal. J'ai regardé
la Coupe de France.
J'ai regardé la Coupe de France.
Ah.
Voilà.
Donc on est sur des joueurs de amateurs.
Ouais.
D'accord.
Beaucoup de.
Mais n'hésite pas à gratter des indices, hein, Cyril, si tu veux.
C'est vrai.
Bah à mon avis.
Et puis toi, tu tombes dans le panneau.
Oui, mais.
Est-ce que tu peux être naïf?
J'ai pas choisi de joueurs du Puy-en-Velay ou de.
Ah bah.
Je reste sur des joueurs professionnels, voire semi-professionnels.
Très bien. Voir semi-professionnel.
Messieurs, c'est le dernier Mercacuiz avant un petit moment. Et je me suis dit, est-ce que je donnerais pas un petit conseil de lecture à nos auditeurs? Parce que d'ici au prochain Mercacuiz, il va s'en passer du temps, il va s'en passer des semaines sans rigolade du mercredi.
Moi aussi, j'ai très peur.
J'ai aucune idée de ce que tu vas faire, mais j'ai très peur.
Ça peut être très malaisant.
Alors, j'ai sélectionné pour vous deux livres, chers auditeurs. Là, c'est pas le chroniqueur qui parle, c'est le chroniqueur littéraire.
Ouais, on est dans le masque et la plume, là, c'est ça?
On est dans le masque et surtout dans la plume. J'ai sélectionné pour vous deux livres qui vont faire grand bruit dans cette rentrée littéraire 2023. Alors, le premier, ça s'appelle « Mes 100 plus belles victoires au Mercacuiz face à Glenn ». Un roman très touchant, très percutant, à l'image du bonhomme, tout simplement. Et à noter Glenn Beaujoueur, préface de Glenn Cellier. Très beau joueur.
C'est ton meilleur montage presque.
Ouais.
Hein.
Ouais. J'en suis très fier.
Mais c'est vachement bien fait. Hein.
Donc c'est.
Ah oui, c'est doublé. Ouais, d'accord.
C'est voilà.
Mais je voyais journaliste d'investigation derrière.
On s'est trompé. Donc voilà. Donc je vous le conseille, Cyril. Je vais me permettre de te l'offrir.
Ouais. Après, sans victoire, je suis pas sûr qu'il y en ait 100. Hein.
Et je suis pas sûr qu'elle soit toute belle.
Il a peut-être un petit peu arrondi. Mais...
Là, ça va être mon tour, du coup.
Alors, bah là, oui, j'espère. Pour les amoureux de voyage, pour les amoureux de l'Europe, pour les amoureux de Tour d'Europe, puisque Tour d'Europe revient, Cyril.
Tout à fait.
Très bientôt.
6 février.
Cyril, c'est un baroudeur. Et l'été dernier, il s'est fait un petit plaisir. Il s'est fait 3 semaines, tout frais payé, du côté de l'Angleterre, du côté d'une ville qu'on appelle Rotherham.
Ah oui, exceptionnel le montage. Exceptionnel.
Mon guide amoureux de Rotherham, avec ce petit bandeau plein de promesses.
Rouler à gauche, c'est pas simple.
Rouler à gauche.
Rouler tout court, c'est pas simple.
Rouler à gauche, c'est pas simple. C'est les plus belles adresses, tout simplement. Il y a des photos, il y a tout ce qu'il faut. Alors,
j'ai la meilleure pizzeria de Nottingham.
C'est le chapitre 9, ouais. Où tu t'es régalé.
Ouais, j'ai fait une intoxication alimentaire aussi. Je vous donnerai l'adresse de l'épicerie.
Voilà. Donc, mon guide amoureux de Roseram, c'est aux éditions 16 minuit. Voilà. Julien.
Comme le shift.
Julien. Je te l'offre, voilà.
Tu sais ce qui me déprime le plus, Quentin, c'est vraiment, je pense, t'as dû passer...
Mais oui, c'est exactement ce que j'allais dire, j'aimerais savoir combien de temps.
Pour une séquence comme le Merca Quiz, c'est délirant.
Combien de temps, les deux montages?
Oh, quelques heures.
Oh, quelques heures,
ça va. Bien, place au jeu, comme dirait Julien Lepers.
Est-ce que tu peux nous rappeler les règles, pour commencer?
Non, mais encore?
Toujours.
Toujours.
Messieurs, c'est très simple, je vais égrener la carrière d'un joueur.
Le premier.
Oui.
De vous deux.
Qui rira.
Non.
Qui trouve la bonne réponse.
Il écoute plus l'émission.
Mais en fait, quand il n'est pas dans l'émission, ça l'intéresse pas.
Pas du tout. T'as lâché l'affaire, en fait. Bon. Donc, le premier de vous deux qui découvre l'identité du joueur gagne un point au Merca Quiz Ranking. Champion d'automne, Julien. Puisqu'on est on va être à la trêve, là.
Ouais.
Automne, été, hiver.
Champion, quoi.
Ouais. L'été dernier, il me semble de... Je crois que j'étais devant toi, Julien, non? Petite victoire 3-2, si, je m'en souviens.
Je m'en souviens. Et puis, la règle... Là, c'est beau.
Là,
la symbolique est belle. La règle Pereira-Morin.
J'ai pas réfléchi à mon joueur avant.
La et proposition d'un nom de joueur avant même le tout premier. Mais on a tout notre temps. Hein. Simon fait signe en régie qu'on a tout notre temps.
Allez, moi voilà. Je vais dire Mama Baldé.
Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout ça.
Je tente un Andy Delors.
Ah, c'est pas mal. Non, c'est pas ça. On va y aller.
Allez, ouais. Hein. Ça fait déjà 28 minutes. Ouais. Là on en ton introduction, elle est plus longue que l'émission.
Oui, mais moi, je peux pas réfléchir. Je suis désolé. Je le mets juste comme ça. Alors, le temps de l'émission.
Ça valait le coup.
Ça valait le coup, ouais.
Allez, messieurs. Bonne chance à tous les deux.
Merci bien.
Je commence à jouer au football avec mes copains d'école sur le terrain de l'équipe locale du SR Zellwiller. Et à l'âge de 5 ans, lors d'une journée de détection, je commence ma carrière au Racing Club de Strasbourg.
Dimitri Liénard.
Pur produit du centre de formation, je prends part à mon premier match avec l'équipe première en octobre 2006 en entrant en jeu face à Guignon.
Adrien Thomasson.
Pour une victoire 1-0 en Ligue 2. Je signe un contrat professionnel dès l'âge de 16 ans, un record de précocité dans l'histoire du club alsacien. Je fais deux apparitions en Ligue 2 lors de la saison 2006-2007. Le club termine à la troisième place et se voit promu en Ligue 1. Lors de la saison suivante, je fais régulièrement partie du groupe professionnel, mais je joue peu. Je suis titulaire pour la première fois de la saison, je vais y arriver.
Ouais.
Lors de la dernière journée contre l'Olympique de Marseille.
Ça commence souvent pareil.
Et je joue...
Ça joue pas beaucoup.
Et je joue le match en intégralité. Au terme de la saison, le club est relégué en Ligue 2 et doit équilibrer ses comptes. Je suis alors transféré.
Où ça?
En juin 2008.
Comment ça? Il est transféré, tu dis pas où?
Ça,
ah, d'accord.
Calme-toi.
Lui, depuis qu'il écrit des bouquins,
Allez,
insupportable. Bon, donc je disais, je suis alors transféré, point, à la ligne. En juin 2008, je signe à Southampton, en D2 anglaise.
En 2008.
Je prends part à 33 rencontres pour ma première saison en Angleterre, mais le club est relégué en 3e division après avoir terminé à l'avant-dernière place. La saison suivante, en D3, je suis convoité par le FC Nantes, mais mon club me retient. Je confirme ma place de titulaire indiscutable au sein de l'effectif, mais les Saints doivent attendre encore une saison supplémentaire pour retrouver la D2, la faute à des points de pénalité liés aux problèmes financiers du club.
2008, ça ?
Ouais. La saison suivante sera couronnée de succès. Les Saints remontent en 2e division.
Schneiderlin.
Ah, bien joué.
Ah oui.
Morgan Schneiderlin.
Bien joué. La victoire.
Eh, mais tu vois, mais ça, c'est parce que j'ai été à Roseram l'été dernier. Voilà. La culture anglaise.
J'avoue. Il y avait un déséquilibre.
Bien sûr.
Il y avait un petit déséquilibre, du coup.
Ah, je suis content. Tu sais, je suis venu deux fois cet été. Ouais. Cet hiver, pardon.
Ouais.
Deux victoires.
Ouais.
Ça devient un peu trop facile pour moi.
Mais au-delà de deux, voilà.
Ouais, souvent, j'ai du mal.
Ouais, c'est ça. Tu cales.
Je suis deg.
Julien,
sur la dernière, je suis deg. Voilà, je vous le dis. Je vais partir aigri.
J'ai l'impression que tu es en pleine dépression là. Faut remonter la pente. Hein.
Mais
t'as de la lecture.
Mais quand même.
Est-ce que t'avais d'autres infos à nous donner sur Nice? Ouais.
Nice, c'est tout récent, Nice.
Bah, il est parti, non?
Alors, on en parle. Parce que tu me charriais, il m'a charrié toute la semaine sur le fait que Adama Traoré n'avait pas d'actualité. Quelle est l'actualité de Morgan Schneiderlin?
Il va signer en Australie.
Voilà, merci.
Si je ne m'abuse.
Donc, il marque lors d'un match contre Bristol City,
Ah bah oui, oui, bien sûr.
Tu t'en souviens, ouais, en 2010.
Ouais. Ça aurait été... Là, on allait arriver en 2014 avec les Bleus et on n'aurait pas été bien.
Ouais. Figure sur la liste des 7 joueurs réservistes annoncés par Didier Deschamps. Là. Mais il remplace qui, Morgan Schneiderlin?
Dans la liste?
C'est pas Cabaye?
Non.
Grenier?
Clément Grenier. Et qui d'autre est forfait?
Jab, tu me dis si t'as des réponses.
Qui d'autre est forfait lors de cette liste? Dans cette liste, qui d'autre est forfait? Le deuxième forfait des Bleus, c'est
2014? Ah, Francky.
Et qui le remplace? Question subsidiaire. Qui le remplace?
Mais attendez, on est sur quel jeu? Oh,
là, je suis sur le même jeu. Un nouveau
est-ce
jeu,
que
là.
C'est pas,
Tu veux pas finir l'émission, c'est ça?
J'ai pas envie de vous quitter, là, en fait. Ah, moi, si, ça va me manquer.
Faut lâcher le micro.
Faut savoir se retirer. Tout à fait. En pleine lumière.
Alors, avec dignité. Avec dignité. T'en as jamais eu, finalement, donc c'est pas très grave.
Non, ça, c'est sûr.
Mais on va laisser les gens tranquilles, par contre.
Ouais. Et puis, on rappelle, disponible dans toutes les librairies. Ouais.
Non, les tout nouveaux
guides d'amour de Roseram.
Moi, je crois que je préfère celle de Julien, quand même.
Ah non, moi, j'aime bien.
Le travail graphique sur celle-ci, elle est costaud, quand même.
Ta tête, elle est exceptionnelle, là-dessus. Ouais.
Mais c'est pas en photomontage, d'ailleurs.
Je te vois bien avec un petit chapeau melon, comme ça.
Allez.
Bah, t'as déjà le melon, il te manque plus que le chapeau.
Très bonne vanne. On va terminer
là-dessus,
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis durant tout l'hiver. Cyril vous l'a dit, vous retrouvez Tour d'Europe à partir de 6 février. Nous, on se retrouve mardi pour la dernière journée de Mercato sur Eurosport.fr en vidéo.
Absolument.
Et puis d'ici là, vous retrouverez la Stream Team avec Maxime Dupuis et Martin Mosny.
Merci à Simon à la vidéo et donc à Quentin au graphisme et au Mercaquiz et à la monopolisation de la parole.
Tout à fait.
Eh bien, je vous en prie, messieurs, tout le plaisir était pour moi.
Salut tout le monde, à bientôt.
Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.